Le commentaire de Serge Paquin.
Monsieur Paquin.
Monsieur Pelletier.
Grosse semaine?
Ben oui, bonne semaine encore, là.
Et politiquement parlant, un nom qui a circulé, en tout cas si ceux ne connaissaient pas, le ministre Fitzgibbon, ils ont connu pas mal son nom parce qu'il a fait la manchette ces derniers jours.
Oui, on en a beaucoup parlé, et tout ça en raison de la nomination d'un nouveau président-directeur général à la tête d'Investissement Québec, M. Guy Leblanc. Qui est un ami, ce qui a toujours été clair. C'est un ami du ministre Fitzgibbon. Et l'opposition, les deux partis d'opposition, Parti québécois et Québec solidaire, ont déposé des plaintes au commissaire à l'éthique à l'effet que le ministre serait placé dans une situation de conflit d'intérêts compte tenu qu'il s'agit d'un ami à lui. Alors, la question qu'on peut se poser, est-ce que c'est une nomination partisane? Quand on parle d'une nomination partisane, généralement, il s'agit de quelqu'un qui a milité dans un parti politique auparavant ou qui a contribué financièrement.
Un ami du parti.
Un ami du parti. Hein? Alors, on a vu dans le passé beaucoup de nominations de cette nature-là.
Oui.
Mais dans le cas de M. Leblanc, ce n'est pas une nomination partisane dans ce sens-là parce que M. Leblanc n'a joué aucun rôle dans le parti de la CAQ. Et il a été un petit contributeur financier, mais il avait contribué également dans les coffres du Parti libéral.
Oui.
Mais ça demeure une nomination politique. De toute façon, la loi prévoit que à la tête du bras économique que constitue Investissement Québec, c'est le gouvernement qui procède à la nomination. C'est une nomination du Conseil des ministres. Et on sait que la CAQ veut donner une nouvelle orientation au travail d'Investissement Québec, une orientation qui est complémentaire à celle qui existe déjà, notamment en étant davantage proactif dans la recherche d'investissements étrangers. Alors, c'est sûr que le ministre qui est responsable du développement économique doit s'assurer que cette nouvelle façon de voir-là, elle est incarnée chez la personne qui occupe la présidence et la direction générale de l'organisme en question.
Mais Serge, tu connais assez bien la politique pour y avoir œuvré, je vais être prudent, quelques décennies. il reste que dans le domaine des affaires, tu sais, versus la politique, on va prendre d'abord le domaine des affaires. Des gens qui travaillent dans la finance, ça vient à se connaître aussi, ce monde-là, surtout lorsqu'on arrive dans ce que moi je vais appeler là, le terrain principal, les gros joueurs.
Ouais, d'ailleurs, à tel point, Martin, que le ministre a dit, écoutez, les 12 candidats là, qui étaient envisagés pour occuper le poste, je les connaissais tous.
Ben oui.
Tous. Parce qu'effectivement, c'est un monde à un certain niveau qui est tricoté et serré.
Ben oui.
Mais on ne peut pas exclure quelqu'un parce que le ministre le connaît. Puis d'ailleurs, la présidente du Conseil d'administration d'Investissement Québec, Monique Leroux, qui est l'ancienne présidente des caisses du mouvement Desjardins, elle est sortie. Écoutez, elle a dit que ça a été une nomination qui était unanime par les membres du Conseil d'administration. Le ministre était en accord, à l'aise avec cette nomination-là. Et à la demande du ministre, il y a eu un processus d'embauche qui a été mené par le Conseil d'administration d'Investissement Québec.
Donc, ça a été fait indépendamment du ministre. C'est pas le ministre qui a choisi, lui, il a donné son aval à la recommandation.
Le ministre est intervenu dans le profil.
Oui.
Le profil du candidat. Oui. Puis effectivement, pour s'assurer que la nouvelle orientation qu'il souhaitait donner à l'organisme soit prise en compte.
Oui.
Et il a lui-même sollicité des candidatures. Il l'a déclaré ce matin en entrevue avec Paul Arcand sur vos ondes. D'ailleurs, il a lui-même sollicité des candidatures, mais le processus a été suivi. Et on a fait beaucoup de cas du fait qu'il y avait un chasseur de tête qui avait été engagé. Et selon ce qui avait été écrit dans la presse, je crois, on disait, mais ce n'est pas la recommandation. C'était pas la personne qui était recommandée par le chasseur de tête. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un chasseur de tête ne fait pas de recommandation pour dire, écoutez, par mes candidats, moi, c'est celui-là que j'engagerai. C'est pas son rôle, c'est pas son mandat. À la ville de Sherbrooke, on a eu recours à plusieurs reprises, et j'ai participé à des comités de sélection, où on était accompagné d'un chasseur de tête. Sa job, là, c'est d'essayer de susciter des candidatures intéressantes, mais c'est le comité de sélection
qui fait ça. Mais c'est pas lui qui fait la recommandation à dire « moi, je veux Joe
Blow ». Pas du tout. Puis d'ailleurs, ça a été mentionné par Mme Leroux.
Et en même temps, on veut les meilleurs.
On veut les meilleurs, puis ça m'amène à parler de la question du salaire. Vous savez, on a fait beaucoup de cas également du fait que, écoutez, plutôt que 400 000, la personne va gagner 800 000. Mais moi, ça ne m'offusque pas du tout parce que à ce niveau-là d'expertise, il y a très peu de candidatures là, qui peuvent assumer une telle responsabilité, ben c'est ce qu'il faut payer. Oui. À la Caisse de dépôt et de placement du Québec, là, c'est pas mal plus que ça que gagne le président, M. Oui. Sabia. Oui. À la tête d'Hydro-Québec, c'est beaucoup plus que ça. Là, on a ajouté dans le dernier budget, là, je pense que c'est 2 milliards de fonds à Investissement Québec. Fait que ça prend quelqu'un d'envergure pour gérer ça. Et comme disait M. Fitzgibbon, ben, quand on veut aller à la guerre, là, ben, il faut avoir les bonnes armes pour aller au combat.
Quand on dit ça, on veut les meilleurs, puis avoir les meilleurs résultats, ben ça, pour les résultats, on les verra. Les inondations. Inondations, puis de ce que propose le gouvernement Legault, du moins de ce qu'on a avancé, là, à dire qu'à un moment donné, on va peut-être racheter les gens, racheter les propriétés. Qu'est-ce que tu en penses?
Il y a déjà des gens qui ont commencé à lever la main pour dire, ben moi, je suis plus capable, puis je suis intéressé à cette offre-là. Ben je pense que c'est... On en est rendu là, hein, parce que dans les dernières inondations, le gouvernement libéral, M. Couillard, ils pensent qu'ils n'ont pas été au fond des choses et ils auraient dû déjà envisager cette option-là. Mm. Parce que quand ça fait 100 000 piastres que l'État donne à un sinistré, ben est-ce qu'on va répéter ça chaque année? Alors là, ce que le gouvernement dit, ben une fois qu'on aura dépensé 100 000 piastres en indemnisation pour une personne, pour un site, ben l'étape suivante, c'est qu'on n'indemnise plus, mais on peut acheter jusqu'à concurrence d'un montant de 200 000 $. Est-ce que 200 000 $ c'est le bon montant? Bon, ben, je pense que la discussion est ouverte. Mais en même temps, l'État, c'est pas l'assureur de tout le monde.
C'est ça.
De n'importe quoi. On peut être compatissant, mais il y a des limites à ouvrir le chéquier du gouvernement.
Oui. Et on a entendu d'ailleurs ces derniers jours des maires, et je vais reprendre leurs propos. C'est le cas du maire de Whedon, c'est le cas du maire d'Asbesta, c'est le cas du maire de Sainte-Catherine, qui est aussi préfet de la MRC, même Frémagog, à dire que les citoyens qui sont des riverains ont la responsabilité de leur décision aussi de s'établir sur le bord d'une rivière, sur le bord d'un lac. Ce choix-là, ça vient aussi avec de telles conséquences.
Oui, c'est sûr qu'il y a comme une responsabilité partagée, je dirais, parce que quand les règles de zonage font en sorte que les gens peuvent s'y établir, mais ça, c'est déterminé par les villes ou les MRC, en fonction de notre connaissance qu'on avait des phénomènes naturels. Hein? Oui. Alors, il y a des zones de récurrence 100 ans, d'autres de 20 ans, mais là, ce qu'on se rend compte, c'est que la nature vient bouleverser tout ça avec les changements climatiques et que ces paramètres-là ne tiennent probablement plus la route. Fait qu'il y a quand même une certaine responsabilité partagée, je dirais.
Oui, mais est-ce que c'est toujours à l'État de pays?
C'est certainement pas toujours à l'État de payer et de payer, d'assumer 100% des risques.
Oui, parce que déjà, toute la mobilisation, tout ce qui est fait auprès des villes, des municipalités impliquées, ben l'argent sort de quelque part. Puis il y aura ces fameux programmes d'indemnisation là, pour le monde municipal du gouvernement du Québec.
Effectivement,
tu
as raison de le souligner. C'est pas uniquement ce qu'on donne après pour couvrir les dommages subis par quelqu'un. C'est le coût de toutes ces opérations-là, des opérations d'envergure,
ben
24 heures sur 24 pendant des semaines dans certains
cas. Exact, puis les employés, puis les salaires, c'est énorme, là, la facture liée d'ailleurs à cette...
Ouais, c'est pour ça je pense que le gouvernement a raison de dire, écoutez, il faut peut-être envisager de régler le problème de fond, une fois pour toutes, en envisageant des déplacements carrément.
Oui. Un mot également sur Serge Forest. On a été d'ailleurs... surpris d'apprendre son décès, parce que pour certains, ça semblait être rapide entre le moment où certaines personnes ont appris que ça allait moins bien, puis malheureusement, son décès.
Oui, mais pour beaucoup, en tout cas, ses anciens collègues, c'était connu, je pense, déjà à son départ de la politique en 2009. Serge ne s'est pas représenté.
Oui.
Je pense qu'on connaissait ses problèmes de santé, là, de cancer, de prostate. Et écoute, Martin, les funérailles auront lieu samedi. Malheureusement, je serai à l'extérieur, je ne pourrai pas y aller, mais je tenais à souligner l'excellente personne que Serge a été. Au-delà du politicien très engagé, Serge était impliqué dans tous les dossiers environnementaux. Là, écoute, c'était fou le nombre de réunions que Serge se tapait dans une semaine. Il a été conseiller municipal à Rock Forest. Il a été le premier président de l'arrondissement Rock Forest Saint-Élie Deauville. Mais c'était un gars qui, au-delà de son engagement politique, avait de très grandes qualités humaines. Un gars généreux, toujours
très
jovial, très ouvert. Ouais. C'était un gars socialement très, très agréable.
Ouais. Et c'est d'ailleurs ce qu'on a entendu. Puis on l'a vu aussi déjà, même il y a des gens avec le fait de donner son nom à des endroits et de reconnaître l'apport de Serge. Je pense que ça, c'est déjà...
C'est un membre fondateur de la Maison des jeunes de Rock Forest.
Voilà.
Psychoéducateur de formation. Il a travaillé à Val-du-Lac là, toute sa carrière.
Il
adorait les jeunes.
Pardon? Tu as siégé plusieurs années avec.
Oui, Serge a fait 8 ans à partir du regroupement municipal en 2001. J'ai eu ce plaisir de le côtoyer.
Ouais. Merci, Serge Paquin.
Merci, Martin. Bonne semaine.